Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
C'est un cours qui est consacré aux origines de la monarchie israélite, aux trois rois que vous connaissez de nom, au moins, je pense. Saül, David, Salomon, vous avez déjà entendu parler, les jeunes, ouais. Très bien, on va voir un peu ce qu'il faut faire avec ces rois. Donc l'année dernière, nous avons parcouru et discuté le livre de Josué. Normalement, j'aurais dû continuer avec le livre des juges, mais je ne suis pas encore trop inspiré par les juges, donc il faut voir, ça viendra peut-être une fois. Donc je me dis, on va sauter les juges, on va aller directement en fait, à l'histoire de la royauté. Et c'est une histoire qui est haute de couleur. C'est une question de la royauté qui est très importante dans les textes bibliques. La question du gouverneur, de la gouvernance. Il y a une racine hébreu, aussi un substantif qui veut dire régner, même nous, Lamet Kaf. Vous avez peut-être des amis qui s'appellent Malikou ou Malika, ça vient de cela, en fait, c'est la reine ou le roi. Et donc, c'est attesté plus que 1000 fois dans la Bible. Donc, c'est un des mots les plus fréquents. Et quand vous commencez à lire la Bible, on ne va pas commencer tout de suite avec la royauté, il faut attendre un tout petit peu. La première fois qu'on va parler des rois, c'est dans l'histoire d'Abraham, au chapitre 14, où pour la première fois, il y a des rois de l'Assyrie, de la Mésopotamie, donc de l'Iran, l'Irak actuel, qui font une sorte de guerre mondiale dans laquelle Abraham est impliqué. Et à ce moment-là, Abraham va aussi rencontrer un dénommé Melchizedek. Vous avez reconnu, il y a le roi, hein, Melchizedek. Tzedek, c'est peut-être la justice, et qui est présenté comme étant le roi de Salem. Qu'est-ce que c'est Salem? Vous avez une idée? C'est peut-être Jérusalem. C'est pas tout à fait dit, mais c'est peut-être Jérusalem qu'on dit de manière un peu discrète. Et ensuite, Abraham va continuer à séjourner chez un autre roi, chez le roi des Philistins, en Genèse 20, et il sera suivi par son fils Isaac, qui y réside également. Après, on a l'histoire de Joseph. Joseph qui va être vendu par ses frères en Égypte et qui va être... C'est lui qui va conseiller le roi égyptien. Donc là, le roi d'Égypte est présenté de manière très positive. Il se laisse conseiller par Joseph. Il le fait même en sorte de chancelier ou de vizir. Et ensuite, il y a juste l'opposé. Il y a le roi d'Égypte dans l'histoire de l'Exode, la sortie d'Égypte, où là, le roi est plutôt un roi oppresseur. Qui, en fait, oblige les Hébreux de faire des travaux de corvée. Ils sont, d'une certaine manière, des esclaves. Et après vient la sortie d'Égypte et la traversée du désert. On va rencontrer des nombreux rois cananéens, souvent difficiles. Ils font la guerre, il faut se défendre. Parfois, il faut aussi négocier avec eux. Mais on n'a toujours pas de roi en Israël. Donc, c'est Moïse qui guide le peuple. Et la première fois qu'on parle d'un roi en Israël, c'est dans le livre du Deutéronome, dernier livre du Pentateuque, où on a, dans le chapitre 17, ce qu'un roi doit faire et ne doit pas faire. Et là, c'est déjà tout un programme qui montre que la royauté, ce n'est pas si évident. Donc on va dire que le roi ne doit pas opprimer ses sujets, il ne doit pas avoir trop de richesses, pas avoir trop de femmes. Et ça fait déjà penser un tout petit peu à Salomon, on va y arriver. Ensuite, quand on continue la lecture, je m'adresse aux jeunes, est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non? Pas vraiment, hein, c'est long aussi. Mais après, donc, quand on a terminé le Deutéronome, donc on arrive au livre de Josué, livre de Josué où nous avons un récit en fait qui est compliqué, qui aujourd'hui fait beaucoup de problèmes, on en a parlé l'année dernière, où là, la conquête du pays sous la direction de Josué, qui officiellement n'est pas roi, mais qui se présente un peu de sa manière de faire, des guerres, etc., comme une sorte de roi assyrien. Et il bat des nombreux rois, au chapitre 10, notamment un dénommé Adonitzedek. Vous vous souvenez, il y avait Melchizedek Et là, on a Adoni Tzedek. Adoni, c'est Monseigneur. Monseigneur est Tzedek. Tzedek, la justice peut être personnifiée, qui est en effet présenté comme étant le roi de Jérusalem. Donc tout d'un coup, on a de nouveau, après Melchizedek, roi de Salem, on a Adoni Tzedek, le roi de Jérusalem. Et tous ces rois sont vaincus, souvent tués par Josué. Après, je vous ai dit, à cette époque intermédiaire, dans le livre des Juges, où en effet, on a des sauveurs, des chefs charismatiques qui interviennent dans une construction un peu cyclique, c'est-à-dire chaque fois quand le peuple se détourne de son dieu Yahvé et s'intéresse à d'autres dieux, bah, Yahvé se met en colère, on voit des ennemis, souvent des rois ennemis, et à la fin, en fait, les Israélites reviennent vers Yahvé et il envoie des juges. Des juges, en fait, c'est souvent des sauveurs, des chefs charismatiques vont délivrer les Israélites des oppresseurs. Et à la fin du livre de Juges, on trouve plusieurs fois une sorte de refrain. Et dans ce refrain, il est dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et en Melech Israël. » Il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun faisait ce qui était droit en ses yeux, Hayashar Beni. Donc, ça veut dire, en fait, là, dans ce refrain, qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère qu'il est temps que la royauté se mette en place. Et c'est ce qui va, en effet, arriver dans les livres de Samuel et la première partie du livre des rois. C'est ces textes-là que nous allons étudier cette année, où nous allons trouver des récits sur les origines de la monarchie et sur Saül, David et Salomon. On trouve ces histoires dans les livres de Samuel, mais on les trouve également dans les livres de Chroniques, mais qui ne parlent pas tellement de Saül, qui parlent seulement de sa mort, et qui s'intéressent surtout à David et à Salomon. Une fois on a mis en place l'histoire des origines de la royauté, dans le livre des rois, on va continuer et on va raconter l'histoire. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe après Salomon. Le royaume va se scinder en deux. Il y a le royaume du sud, Juda, le royaume du nord, Israël. Et en fait, ces deux royaumes sont un peu des frères ennemis. Et on va raconter leurs histoires jusqu'à la chute de Samarie en 2 rois 17. C'est les Assyriens qui vont détruire la capitale et qui vont annexer les territoires. Et de Juda en 2 rois 25. 24 et 25, on va en effet raconter la destruction de Jérusalem par les Babyloniens et l'exil babylonien. Et donc, c'est la fin de la royauté. On ne sait pas si la royauté va pouvoir continuer. Mais du coup, il faut se poser la question, et les gens se sont posé la question, est-ce que c'est une bonne institution, la royauté? Est-ce qu'on a besoin des rois? Ben, c'est une question qu'on peut toujours se poser. Hein. Donc, dans un livre qui s'appelle « Livre d'Ésaïe », dans la deuxième partie, qu'on appelle parfois le deuxième Ésaïe ou Deutéro-Ésaïe, le roi perse, qui va mettre fin à l'empire babylonien, ben, il va être appelé le Messie de Yahvé, le roi élu de Yahvé. Donc ça veut dire en fait que pour l'auteur de ce livre, il se dit « il n'y a pas besoin de roi judéen, il n'y a pas besoin ». Les Perses font très bien l'affaire. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin, en fait, la continuité de la ligne royale. Donc faut-il un roi judéen? Et donc ça veut dire, en effet, qu'au moment où il n'y avait plus de roi en Israël, en Juda, est née toute une réflexion, en effet, sur la nécessité ou l'inutilité d'avoir des rois. Et c'est un sujet qui a continué tout au long de l'histoire, jusqu'à l'époque helléniste, jusqu'au Nouveau Testament. L'histoire de Jésus, ça s'inscrit encore dans cette histoire de la royauté, parce que pour certains, c'était le nouveau roi pour Israël. C'était le nouveau David. D'ailleurs, il est souvent appelé le fils de David. Donc ça continue assez longtemps. Et donc, cette question de la royauté et du pouvoir royal, c'est un thème central dans la Bible, et pas seulement dans la Bible, puisque ce que je vous propose cette année, c'est de faire le cours, vous avez le programme, je ne vais pas le détailler, sur les premiers rois, mais le séminaire de manière plus générale sur la légitimation, la contestation du pouvoir politique dans la Bible hébraïque, mais aussi le Proche-Orient ancien. Et tout à l'heure, nous allons avoir un séminaire sur l'Égypte ancien. Voilà, donc je voulais peut-être juste vous commenter cette image. Cette image reprend un texte du livre des Rois. Ça se trouve dans un livre très très populaire au XIVe, XVe siècle, le Speculum Humanae Salvationes. Donc pour les latinistes, c'est le miroir du salut des humains. Hein. Et donc c'est en fait une sorte de Bible en bande dessinée, une sorte de manga avant l'heure. Et donc vous avez en effet là Salomon. Au-dessus, vous avez David, à qui on donne des présents, des tribus probablement, ou alors peut-être une sorte d'huile d'onction, mais on ne sait pas très bien. Et en bas, vous avez Salomon qui est assis sur un trône de lion. Et ça vient du livre des rois, parce qu'on lit dans le livre des rois que le roi Salomon fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Et ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chaque étape, sur chaque escalier, il y avait des lions. Donc ça fait 12 lions en bas qui sans doute représentent les 12 tribus d'Israël. Voilà, mais maintenant passons in medias res. Commençons avec les premiers rois d'Israël. C'est des figures dont vous avez entendu parler, mais qui sont d'abord, dans un premier temps, on peut dire, c'est des rois types. Saül, on pourrait dire, c'est un roi qui, aussitôt qu'il est intronisé, va d'échec en échec. C'est un peu la royauté en échec. Et le pauvre Saül, il ne sait pas trop ce qui lui arrive, parce que aussitôt qu'il est consacré roi, il est tout de suite rejeté par Yahvé, ce qui est très bizarre. Hein ? Et puis David, c'est le roi guerrier qui va combattre les Philistins, Saül d'ailleurs aussi. Mais lui, il va fonder la vraie dynastie davidique, et son fils, mais peut-être ce n'est pas son fils, ça il faut attendre quelques cours, mais Salomon, ce n'est peut-être pas le fils de David, donc ça vous pouvez déjà garder ça en tête. Donc Salomon qui est présenté comme son fils, ben, c'est le roi bâtisseur, le roi qui construit le temple, le roi sage, le roi qui est très riche, la reine de Saba, vous connaissez toutes ces histoires que nous allons également analyser. Et depuis un moment, je m'étais dit, ça fait un peu penser aux trois fonctions de Georges Dumézil, ces trois rois. Je ne sais pas si vous avez une idée de Georges Dumézil, donc il y avait en effet dans plusieurs publications, notamment l'idéologie tripartite des Indo-Européens de la Bible, mais aussi dans Mythes et Épopées, a eu l'idée que pour les Indo-Européens, cette structure tripartite dont les mythes et récits fondateurs, elle est fondamentale. Mais il a toujours refusé que ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres cultures, d'autres civilisations. Et finalement, ça ne marche pas si mal. Hein, si vous prenez un peu les trois fonctions, c'était la fonction souveraine, la fonction de gouvernement, la fonction guerrière et la fonction de prospérité. Et si vous regardez les trois rois, ça marche assez bien. Et en fait, cette idée que j'avais depuis un petit moment, maintenant je suis très content, elle est confirmée par une publication qui vient de sortir par M. Dominique Briquel, s'appelle « Les rois d'Israël, Saül, David, Salomon, essais comparatifs ». Donc c'est un livre que je vous conseille, où en effet, il essaie justement d'appliquer cette idée tripartite. Et elle trouve en effet des structures tripartites très fréquemment dans des récits sur ces rois. Donc d'abord, il rappelle en fait que si vous prenez la mythologie grecque, vous avez souvent une succession de trois. Si vous prenez la théogonie, donc l'histoire des origines des dieux, hein, vous avez d'abord Uranos, qui est suivi par Cronos, qui est suivi par Zeus. Donc Zeus vient en dernier. Zeus, c'est un peu le Salomon, du coup, si on prend nos trois rois du panthéon grec. Et pour les rois, en fait, il y a ces trois fonctions, c'est-à-dire la première fonction, il faut gouverner avec justice et accomplir les devoirs envers les dieux, donc la gouvernance et le culte. Il faut combattre les ennemis, ça c'est deuxième fonction, et il faut garantir la prospérité. Voilà. Et donc un bon roi doit se comporter de façon à bien accomplir ses fonctions, et un mauvais roi va commettre des fautes. Et ces fautes vont provoquer la colère de Dieu, parfois le rejet du roi. Et si vous lisez les récits de ces trois rois, vous trouvez un peu cette structure. Hein. Par exemple, Saül, comme je vous ai dit, il est élu, mais aussitôt rejeté. Et on va expliquer qu'il a commis trois fautes. Il a commis une faute rituelle, parce qu'il n'attend pas Samuel, dont je vous parlerai plus la semaine prochaine, il n'attend pas Samuel pour offrir un sacrifice à Yahvé. Donc il veut en effet contester cette fonction sacerdotale. Il commet également une faute au niveau de la guerre, c'est-à-dire il n'accomplit pas le cherem. Le cherem, c'est quoi ? Le cherem, c'est en fait ce qu'on traduit souvent par anathème, mais il ne met pas à mort, en fait, c'est souvent mettre à mort les ennemis ou des animaux. Donc il n'accomplit pas le cherem après qu'il a remporté sa victoire sur Amalek. Et finalement, il y a une faute alimentaire, à savoir que Jonathan, son fils, a transgressé le jeûne en mangeant du miel. Mais normalement, il a dit, celui qui transgresse va être sanctionné, et il ne sanctionne pas son fils suite à une demande du peuple. Et donc, c'est ces trois fautes qui, selon le récit biblique, vont en effet expliquer pourquoi Saül est rejeté. David aussi commet des fautes. Première faute qui concerne la fonction de gouvernance et du culte des dieux, c'est qu'il ne construit pas le temple. C'est une faute sous-entendue parce que ça ne lui est pas reproché, mais vous savez, le roi fondateur d'une dynastie, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit construire un sanctuaire pour son dieu tutélaire, ce qu'il ne fait pas. Hein ? Et donc c'est Salomon qui le fera. Ensuite, la fonction 2, donc dans un contexte de guerre, il, en fait, enlève la femme de son général Uri, donc il commet l'adultère avec Bethsabée, hein, et donc fait mourir son mari, puisqu'il ne veut pas que cet adultère soit public. Donc il l'envoie dans la guerre de sorte qu'il est sûr d'être tué. La sanction, je reviendrai là-dessus aussi, Yahvé fait mourir en fait le premier fils qui naît de cette union. Et il commet, ça c'est la fonction 3, un recensement du peuple. Il compte le peuple alors que ça déplaît à Yahvé, encore que c'est Yahvé qui lui donne l'idée. C'est très compliqué l'histoire. Hein. Et Yahvé le laisse choisir entre trois fléaux. La famine, la défaite militaire, ou la peste. Et c'est de nouveau les trois fonctions. Et puis Yahvé va choisir la peste, en fait, et trouve à la fin l'emplacement du futur temple. Il ne construit pas le temple, mais au moins il trouve l'emplacement du temple. Et dernier exemple, c'est Salomon. Salomon, avant qu'il arrive à la royauté, il a une vision divine à Gabaon. Et Dieu lui demande ce qu'il souhaite pour être le futur roi. Et Salomon dit, moi je veux un cœur sage qui distingue ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne veut pas la victoire sur les ennemis, il ne veut pas les richesses, il veut un cœur sage. Donc ça c'est la fonction 1. Et du coup, Yahvé lui donne aussi la force militaire, la gloire et la vie de ses ennemis, et des richesses et des biens. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal, on pourra continuer un peu les exemples, mais ces structures tripartites, je ne veux pas dire que ça explique toute l'histoire de David, Salomon et Saül en premier, mais je pense que Dumézil, tout en étant très réticent par rapport au mythe sémitique, a vu quelque chose d'intéressant. Après, ça ne nous explique pas tout. Elle fait apparaître une certaine structuration de ces premiers rois, mais qu'on se pose la question de la composition de ces textes, est-ce que ces rois sont des figures historiques, est-ce qu'ils ont vraiment vécu, ben ça, évidemment, il faut se tourner vers d'autres méthodes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, peut-être juste avant se poser des questions sur les noms de ces trois rois. Parce que je vous ai dit, ces rois, c'est des rois un peu types. Et ils ont aussi des noms un peu programmatiques, d'une certaine manière. Le premier, c'est Saül. Saül, c'est le plus intrigant, d'une certaine manière. Parce que, bon, le nom est très simple, ça vient d'une racine hébreu, Shaal, demandé. Donc Shaoul, c'est le participe passif, c'est lui qui demandait. Mais quand on raconte son histoire, on n'explique jamais son nom. Par contre, on utilise cette racine quand on raconte l'histoire de la naissance du prophète Samuel. Vous connaissez le prophète Samuel, qui va être un peu le vis-à-vis de Saül pour le meilleur et pour le pire, hein? Et l'histoire de la naissance de Samuel commence, ça c'est un grand classique dans les récits bibliques, il commence en fait avec une femme qui est stérile, d'ailleurs pour les auteurs bibliques, il n'y a que des femmes qui sont stériles, donc je crois qu'elles n'étaient pas très au courant des affaires biologiques. Ils ne pouvaient pas imaginer que c'est les hommes qui pourraient aussi avoir des problèmes. Mais disons, dans le récit, c'est donc cette femme, Pénina de Elkana, qui est. Anne, la femme de Elkana, qui est stérile. Et donc, finalement, elle va au sanctuaire et tout se passe bien. Yahvé se souvient d'elle. Bon, ça, c'est aussi un peu bizarre. Yahvé se souvient d'elle, mais enfin, bon. Quand le jour était révolu, Anne devient enceinte. Et l'enfanta un fils et l'appela Samuel, car, dit-elle, c'est à Yahvé que je l'ai demandé. Et donc là, on retrouve la racine Shaal. Donc voilà, Sheiltiv. Ça, c'est bizarre parce que le nom de Samuel n'a rien à voir avec la racine Shaal. La racine, c'est plutôt, c'est plutôt une combinaison entre le mot Shem, qui veut dire le nom, et El, qui veut dire la divinité El ou Dieu, ou plus tard Allah, c'est la même chose. Et donc c'est le nom de Dieu, ou son nom est El. Et donc pourquoi est-ce qu'on utilise la racine Shaal pour expliquer le nom de Samuel? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors il y a deux possibilités. Soit on peut dire qu'à l'origine, c'était l'histoire de la naissance de Saül. Et quand Saül a eu de plus en plus de mauvaise presse, on a transféré ce récit sur Samuel. Ça, c'est une possibilité. Hein? Ou on peut simplement dire, on fait déjà allusion au nom de Saül en disant, mais le vrai personnage demandé, ce n'est pas Saül, c'est Samuel. Donc c'est une sorte de reprise de l'étymologie qui présupposait connue par les destinataires. Et on le donne pour Samuel pour dire c'est lui le vrai. Bon, c'est possible. Je ne sais pas quelle solution vous préférez, vous me le dites après. Alors, David. David, c'est qui ? Le nom, c'est le bien-aimé, le chéri, le favori, le bien-aimé de son Dieu protecteur, probablement. Vous connaissez peut-être le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est la poésie amoureuse, ça existe aussi dans la Bible, des chants amoureux, où en effet, le bien-aimé et appelé aussi Dod, D-Vav Dalet. Hein? Mais ça peut être aussi l'oncle, donc un membre de la famille, souvent l'oncle paternel. Et du coup, certains disent en fait que dans certains cas, c'est un nom de substitution. En fait, le nouveau-né prend le nom de Dod, David, hein, pour en fait remplacer d'une certaine manière l'oncle récemment décédé. Ça, c'est une possibilité. Mais je pense que le plus simple, c'est de penser plutôt au bien-aimé, au favori. Et on a ce Dod aussi dans la stèle de Mécha. La stèle de Mécha qui se trouve dans le Louvre. Donc, quand il n'y a pas les grèves, vous pouvez aller au Louvre et puis vous pouvez l'admirer. Donc, c'est une stèle intéressante pour les recherches bibliques parce qu'on parle en fait d'une guerre entre le roi de Moab, donc l'autre côté du Jourdain, la Jordanie, et Israël. Et là, on parle en effet que le roi Mécha, donc roi moabite, qui se vante en fait d'avoir emporté l'autel de son Dod. C'est-à-dire de son bien-aimé, c'est probablement là le nom de Yahvé, de la divinité protectrice d'Israël. Donc, vous voyez, c'est un nom en fait qui a des significations assez diverses. Voilà, Salomon. Salomon, on pense tout de suite à Shalom, à paix. La racine Shin Lamed Mem, c'est être complet, être en paix. Mais quand on relate sa naissance, on n'explique pas le nom. On n'explique pas le nom. On dit simplement que Yahvé, donc c'est dans le contexte de l'adultère de David avec Bathsheba. Et Yahvé est très mécontent, donc il fait en effet mourir le premier fils de cette union. Et puis il y a un deuxième fils qui va arriver. Et dans le texte, il est dit, David alla avec elle, il coucha avec elle, elle mit au monde un fils et il l'appela du nom de Salomon. Donc dans le texte tel que nous l'avons maintenant, c'est il, donc David, qui donne le nom à Salomon. Mais les massorètes, ceux qui ont vocalisé le texte, ils ont dit non, c'est pas il, c'est elle. Ils ont vocalisé en fait ce qu'on appelle le keré, c'est ce qu'il faut lire. Ils ont vocalisé le pronom personnel comme si c'était un pronom personnel féminin. Donc pour qu'on lise, et elle appela son nom Salomon. Donc du coup, c'est la mère qui donne le nom. Hein. Donc ça change un peu les choses. Hein. Et donc certains ont pensé, du coup, Salomon, c'est à traduire comme son substitut, parce que Shalom, ça peut être aussi cette idée-là. Donc, elle appela son substitut par rapport au premier fils qui est mort. Hein, ça, c'est une possibilité. Une autre théorie, c'est de voir un lien avec une divinité à Ougarit. On connaît Shalimou, qui est le dieu du crépuscule. Et certains pensent même que le nom de Jérusalem comporte aussi cette divinité, hein. Donc la colline de ou la construction de Shalimou, d'ailleurs aussi attestée comme divinité assyrienne. Ce qui est intéressant, à la fin de cette histoire de l'adultère, on trouve un deuxième nom pour Salomon. Le prophète Nathan, donc Yahvé, par l'intermédiaire de ce prophète, va l'appeler Yedidia. Et Yedidia, bah, les hébraïsans retrouvent tout de suite la même racine que pour David, hein, c'est-à-dire le bien-aimé de Yahvé. Voilà, donc ce sont des noms qui sont déjà un tout petit peu programmatiques et Salomon, c'est peut-être le nom qui a fait hésiter le plus les rédacteurs, les réviseurs qui ont en effet suggéré plusieurs fois. Alors maintenant, se pose la question, est-ce que ces rois ont vécu? Est-ce que c'est des personnages historiques? Est-ce qu'on sait s'ils ont vécu ou est-ce que c'est des figures inventées, comme dans les légendes? Et c'est très compliqué, parce que dans les... si on prend ces trois rois, seul David est encore est attesté en dehors des textes bibliques à cette époque-là, pas plus tard, bien sûr. Après, on peut aussi constater qu'il y a déjà une difficulté quant à la chronologie des règnes de ces rois. De David et de Salomon, on va dire qu'ils ont régné 40 ans. Quand on dit qu'ils ont régné 40 ans, ça veut dire quoi? Donc on n'avait pas trop d'idées. On s'est dit 40 ans, c'est un chiffre rond, c'est assez long, donc mettons 40, comme les 40 ans dans le désert, etc. Donc on avait apparemment peu d'informations précises. Et pour le pauvre Saül, on a donné que 2 ans. Alors, ce n'est pas très logique non plus quand on regarde tout ce qui est transmis sur ces rois. Donc, peut-être certains ont dit qu'il faudrait mettre 20 ou 12 au lieu de 2, mais de toute façon, c'est des chiffres pas très précis. Et donc, du coup, on peut vraiment se poser la question si on peut construire. Et jusqu'à maintenant, tous les chronologies bibliques font ça. Ils vous construisent une chronologie des premiers rois, en mettant David, grosso modo, Saül d'abord vers 1030 à 1010, David à 1010 jusqu'à 970, et puis Salomon de 970 à 930. Mais c'est purement repris de la chronologie biblique qui, comme je vous ai dit, n'est pas très précis. Donc, il faut être prudent. On pourrait aussi imaginer que ces rois ont régné en même temps, qu'ils avaient des durées de règne plus courtes. Donc, toute cette... si vous regardez dans les Bibles, souvent, on vous donne des chronologies à la fin. Donc, quand vous voyez ces chronologies, il faut vous méfier un tout petit peu. Il faut être prudent. Et en même temps aussi, si on lit attentivement le texte biblique, on se rend compte aussi que l'idée que David aura tout de suite pris le pouvoir après la mort de Saül pour régner sur son territoire, c'est même contredit par le texte biblique. Parce qu'il y a un des fils de David, Ishbaal, qui en fait a régné après la mort de son père. Et ça, ce n'est pas souvent pris en considération. Là aussi, on lui donne 2 ans. Mais probablement, il faut imaginer aussi qu'il a régné bien plus longtemps. Donc, ça veut dire que David et le successeur de Saül, même selon le récit biblique, ont régné en parallèle. Donc l'idée que David aura repris tout le royaume de Saül n'est pas attestée par, disons, n'est pas confirmée par les récits bibliques. Alors, il y a peut-être une mention de David en dehors de la Bible, dans une stèle qu'on a découverte à Dan, Tel Dan, tout au nord d'Israël, proche de la frontière libanaise, dans des fouilles dans les années 93-94, qui en fait contient une inscription araméenne, malheureusement fragmentaire, faite par un roi qui se vante d'avoir vaincu les Israélites. Donc, ça, c'est une partie de cette stèle. Et ce qui est marqué un peu plus en blanc, ça, c'est le mot qui nous intéresse. Où vous avez donc « Mon père est devenu avant moi », etc. Donc, j'ai tué, j'ai mis en fuite les chariots. C'est très compliqué à reconstituer. Mais on trouve un moment cette expression qui est traduite par Beth David, la maison de David. Donc j'ai mis fin à la maison de David. Beth en hébreu, c'est la maison. Et donc, si cette manière d'interpréter est juste, on aurait là la première attestation en dehors de la Bible au 8e siècle de David. La maison de David, ça veut dire la dynastie de David, le royaume de David, parce que les Assyriens, ils ont utilisé la même expression en parlant de Beth Romri, de la maison d'Omri, pour parler d'Israël du Nord. Donc du coup, on aura ici la première attestation du nom de David. Mais est-ce que ça prouve en soi l'historicité? ça nous indique qu'au 8e siècle, en effet, on considère que le royaume de Juda peut être appelé la maison de David selon son fondateur. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce fondateur? C'est une autre question. D'ailleurs, j'ai encore quelques petits doutes si c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut lire l'expression, mais là, c'est une autre chose parce que la grande majorité pense qu'il faut le lire comme maison de David. Donc on aurait en effet là une attestation au moins du nom. Ce qui est très discuté encore, c'est la question si, dans cette fameuse stèle de Mécha dont je vous ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'on aura aussi tout à la fin? Mais c'est très abîmé, cette stèle, c'est très abîmé parce qu'elle était cassée par les Bédouins, elle a été reconstituée à la fin, on ne sait pas très, très bien lire, donc c'est très difficile à lire. Certains pensent que tout à la fin, on aura également la même expression, Beth David, donc ce sera un peu plus ancien. Mais ce n'est pas très, très clair, donc je pense qu'il ne faut pas trop insister sur cette stèle de Mécha. Ensuite, on a fait des fouilles dans un site qui s'appelle Kirbet Kayafa, que vous avez sur... je vais essayer de... Mais chaque fois, je n'arrive pas, donc peu importe. Alors, je vais vous le montrer... Je vais vous montrer comme ça. Hop. Voilà, vous avez ici Kirbet Kayafa. Et c'est un site qui est entre les villes philistines et le territoire de Juda, qui était fouillé dans de 2008 à 2013 par un archéologue de Jérusalem, Joseph Garfinkel, qui avait trouvé à Kirbet Kayafa, c'est un site en fait qui date du Xe siècle et qui a une seule strate d'occupation. Et ça, c'est très rare. Donc après, ça a été abandonné. Donc c'est vraiment que au Xe siècle. Et il avait considéré, comme David a vécu au Xe siècle, c'est la résidence d'été de David. Bon, il a identifié ce site avec un... un nom d'une ville, Shaharaim, qui est mentionné trois fois dans la Bible. Et puisque David aura combattu Goliath sur la route de Shaharaim, selon Garfinkel, ça prouve l'historicité de David et de tout le récit. Donc je vous donne une citation et vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Donc Garfinkel dit, c'est la première fois que les archéologues ont découvert une ville fortifiée en Juda, datant de l'époque du roi David. Même à Jérusalem, nous n'avons pas une évidence claire d'une ville fortifiée à cette époque. Ainsi, les publications qui nient complètement la tradition biblique en ce qui concerne le roi David et prétendent qu'il est un personnage mythologique ou tout simplement un chef de file d'une petite tribu sont maintenant réfutées. Est-ce que vous êtes convaincu par cet argument ? Ça va un peu vite. Ça va un peu vite. D'ailleurs, on n'a aucune trace de l'occupation de ces sites par des Judéens, on n'en sait rien. Certaines pensent, Nadav Naaman pense que ça pourrait être une ville philistine. Israël Finkelstein pense que c'est peut-être une ville du Nord, donc on n'en sait rien. Et puis il y a cette fameuse inscription. Donc s'il y a des épigraphistes entre vous, on n'a toujours pas vraiment déchiffré cette inscription, ce qui est intéressant en soi. C'est un morceau d'argile, un ostracone. On n'arrive pas à le lire. Disons, il y a des gens qui ont pensé d'avoir déchiffré, mais ça reste quand même très, très ambigu. Donc, en fait, c'est très compliqué d'aller très loin dans l'historicité de David. Je voudrais vous citer encore le livre récent de Omer Sergi de l'Université Tel Aviv, The Two Houses of Israel, State Formation and the Origins of Pan-Israel Identity. Donc lui, il est très prudent, mais il dit quand même que si on lit attentivement l'histoire de David, sa question à lui, c'est de savoir quand est-ce qu'on a eu pour la première fois l'idée un peu d'une sorte d'Israël uni entre le Nord et le Sud. Actuellement, la recherche dit plutôt, c'est pas avant Jéroboam II, et Omer, il pense que c'est déjà à l'époque de David, puisqu'il dit, quand on regarde où David se promène, c'est à la fois dans le nord et dans le sud, et Israël, à ce moment-là, c'est plutôt une entité tribale, c'est pas encore un concept étatique, et donc, il faut en fait admettre que derrière les récits de Saül et David, il y a en fait des mémoires, en fait une sorte d'identité, alors pas pan-israélite, mais une identité qui met ensemble des tribus, pas les 12, mais des tribus du nord et du sud. Donc c'est un peu un retour, ou c'est un peu une réponse contre Finkelstein et d'autres qui pensent qu'avant le 8e siècle, il ne se passe rien. Et Homère pense quand même que, même s'il est d'accord pour dire que les histoires sur David, c'est souvent écrit beaucoup plus tard, mais il pense quand même qu'il y a une sorte de mémoire un peu historique qu'au Xe siècle, il y avait déjà dans les clans une sorte d'idée d'appartenance à un même ensemble. Donc, c'est un livre un peu compliqué, mais intéressant, donc, et qui prend un peu le contrepoint de ce qui était devenu un peu une sorte d'idée majoritaire, et donc il faut évidemment aussi s'intéresser à ces mises en question. Après, il y a d'autres arguments pour des mémoires historiques qui peuvent remonter au début du premier millénaire avant l'ère chrétienne, c'est la mention des Philistins. Encore que certains aussi pensent que les Philistins, là, c'est purement inventé, mais là, c'est quand même un peu compliqué. Parce que les Philistins, on les a très bien attestés. Les livres de Samuel sont en effet parcourus par des textes qui mettent en conflit des guerres entre les Philistins et les Israélites. Et d'ailleurs, et ça aussi, on n'aura probablement pas inventé ça si on avait construit totalement une histoire de David, est-ce qu'on aura raconté qu'il est devenu le vassal des Philistins? C'est un peu une sorte de condottiere là, qui, au service des Philistins, va racketter les villageois. Et ça, je pense, en effet, si c'était tout à la gloire de David, on n'aurait probablement pas inventé ces histoires. Donc il y a peut-être quand même une sorte de souvenir que peut-être même le royaume de David était d'une certaine manière toléré par les Philistins, qu'il était peut-être une sorte de vassal de Philistins. Les Philistins, qui occupent en effet toute la côte, donc là vous avez les villes les plus importantes, je ne veux pas tout vous commenter, mais les villes, on va en trouver aussi le nom dans l'histoire de l'Arche, etc. Ashdod, Ashkelon, Ekron, notamment Gat, des villes qui sont bien fouillées maintenant, qui donnent plein de renseignements. Et on a pas mal d'informations sur les Philistins qui viennent probablement de la Méditerranée. Donc là, vous avez une représentation des Philistins qui, en fait, portent les armes, l'épée qui porte le long du corps de manière diagonale, de l'épaule jusqu'à la taille. Vous trouvez ça sur en fait, un vase de Chypre, ce qui montre un peu aussi déjà l'origine méditerranéenne des Philistins. Donc on a souvent pensé, en effet, que c'était les fameux peuples de la mer. Ça, c'était Maspero qui avait inventé cette idée. Donc une nouvelle population qui vient de la Méditerranée, des îles grecques, et que le pharaon aurait, après sa victoire, installé dans la plaine côtière du sud de Canaan. Bon, ça, la deuxième partie, la première partie est juste. Ils viennent en partie de la Méditerranée, mais que le pharaon aura eu une sorte de plan d'occupation en disant, voilà, vous vous mettez là, ça ne correspond pas à la réalité. C'est un processus bien plus long, et en partie, ils viennent aussi de l'Anatolie. Donc, on pourra dire que c'est un peu la désintégration, comme dit Idokor, des empires hittites et égyptiens, et une sorte d'accroissement d'activité de pirates, de mercenaires du monde égéen. Les Philistins, qui sont bien attestés en égyptien, en acadien, en hébreu, donc vous avez le nom, probablement, c'est pas un nom ethnique, c'est plutôt un nom générique pour des populations indo-européennes qui s'installent dans un long processus sur la côte du Levant, mais aussi en Anatolie. Donc, ce qu'on peut dire sur le plan historique, c'est que quand on passe du fer 1 au fer 2, donc aux alentours de 1000 avant notre ère, on va apparaître dans le Levant un certain nombre de petits royaumes. Le royaume de Moab, le royaume d'Ammon, les royaumes araméens, ce qui s'explique par une sorte de vacuum politique. L'Égypte s'est retirée, ne contrôle plus tellement le Levant. L'empire hittite s'est également désintégré, et donc il y a une sorte de vide politique ce qui permet en fait des apparitions de ces petites unités. Alors, est-ce qu'il faut déjà les appeler royaumes ou chefferies? Ça, c'est une autre question. Hein, mais... Et le texte qui, en fait, se trouve dans Samuel et Roi, bah, il montre en effet que ses origines sont situées dans le territoire, notamment de Benjamin, avec des parties du nord et des parties du sud, qui sont en effet, comme je vous ai montré tout à l'heure, la zone d'influence de ces tribus, de ces cités, pardon, philistines. Voilà, donc ce qu'on peut dire, après on va reprendre la question chaque fois quand on analyse les différents textes, hein, mais je pense que ces textes gardent un souvenir un peu de l'origine de la royauté. Après, c'est un peu comme le roi Arthur, donc c'est très très difficile après, derrière les traits légendaires, de trouver des informations historiques précises. Donc du coup, ce qu'il faut faire d'abord, c'est comprendre les textes et voir que sur quoi ces textes se basent. Donc il faut faire un travail sur les textes, et ces textes se trouvent, comme je vous ai dit, dans les chroniques, mais aussi dans les livres de Samuel et de Roi, dans le texte massorétique, et dans les Bibles grecques. Les livres de Samuel et des Rois, on les a regroupés, donc dans vos Bibles françaises, on va vous parler de 1 ou 2 Samuel, et de 1 et 2 Rois. Mais dans les versions grecques, c'est 4 livres de règne. Donc en fait, ils sont regroupés, hein, Basileion, pour dire c'est en fait une histoire qui commence en Samuel et qui va à la fin de Deux Rois. Alors il ne suffit pas simplement, pour comprendre ces histoires, de lire les textes bibliques. Il faut déjà se rendre compte que quand, et ça vous ne vous rendez pas toujours compte, quand vous prenez une traduction, ben, on a l'impression que tout va bien. Et quand on regarde un peu dans le détail, ben, on se rend compte qu'il faut déjà choisir sur quel texte on veut se baser. Parce qu'il y a déjà des grandes différences entre les textes grecs et les textes hébreux. Donc ça, c'est une différence importante. Pour les textes grecs, on a aussi une variété des textes grecs. Ce n'est pas seulement un texte grec, il y a plusieurs variations. On parle souvent d'une recension qui est attribuée à Lucien d'Antioche, en forme du texte grec qu'on n'a pas dans le Pentateuch, mais qu'on a dans les livres de Samuel et de Roi. Donc l'idée, c'était que en fait, ce texte grec aurait été en fait, révisé par une sorte de père d'église au IIIe siècle qui voulait en fait, le rapprocher le texte plus ancien au texte biblique en hébreu. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, puisque grâce aux découvertes de Qumran, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Qumran, donc c'est sur la mer Morte, on a trouvé beaucoup de manuscrits en fragments des textes bibliques, et là on a trouvé en hébreu, et ça c'est très important pour le livre de Samuel notamment, des fragments qui souvent en effet correspond un peu à ce qu'on appelait jadis la tradition de Lucien, la recension lucianéenne. Et du coup, ça ne marche plus, parce que Lucien est au IIIe siècle après, et les textes de Qumran, c'est au IIe siècle avant, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc du coup, il faut imaginer que derrière ce qu'on appelle la tradition lucianéenne, il y avait déjà en fait un texte grec qui, en fait, correspondait à un texte hébreu différent de celui qui est devenu le texte massorétique. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est important Et quand on va travailler sur le texte, je vous ferai parfois découvrir les différences qui parfois sont en détail. Pensez pas que vous avez toute l'histoire de Samuel si vous lisez vos Bibles en français, qui souvent prennent simplement le texte massorétique. Donc, quand même des différences assez importantes. Donc, je ne vais pas aller dans le détail. On a des grands codex grecs qui sont importants. Le Vaticanus, qui est écrit au IVe siècle de l'ère chrétienne en Égypte, qu'on souvent considère comme le texte le plus fidèle au niveau de la transmission du texte grec. Mais là aussi, il y a une révision qui a eu lieu au 1er siècle, qu'on appelle la révision Kaige, qui reprend en fait une expression hébreu qui, en fait, la syntaxe hébraïque de la Bible, c'est un peu ennuyeux, c'est toujours et ensuite, vegam. Et donc, ça, c'est repris par Kaige. Kaige en grec, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, c'est là aussi une tentative, en fait, de faire coller le grec plus à l'hébreu. Mais derrière cette révision se trouvent probablement là aussi souvent des textes qui se basent sur d'autres textes hébreux. Donc, quand on travaille sur ces textes, vous travaillez pas seulement sur le texte hébreu, il faut travailler sur le texte grec, il faut regarder les textes de Qumran, et dans de nombreux cas, il faut en effet préférer souvent la leçon du texte grec, surtout quand ça coïncide avec les attestations à Qumran. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas penser que le texte massorétique est à chaque coup le texte le plus ancien. Ça, c'est très important. Donc parfois, on a là des attestations des étapes antérieures dans la transmission du texte. Voilà. Regardons très rapidement le contenu. Le contenu de 1 Samuel à 1 roi 11, comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, ça commence avec la naissance de Samuel. Samuel, c'est quelqu'un qui va être très important pour l'arrivée au pouvoir de Saül. Donc on va raconter sa naissance, donc vous vous souvenez ce que je vous ai dit, l'explication de son nom, qui en fait est Saül. Entre-temps, on va avoir une autre histoire qui n'a rien à voir avec Samuel, c'est l'histoire de l'Arche de l'Alliance, hein, qui va interrompre en fait l'histoire de Samuel, mais qui va introduire les Philistins, qui en effet vont capturer l'Arche, l'amener dans leur territoire, et l'Arche ensuite, par l'intervention de Yahvé, va revenir en Israël, à Beth-Shemesh, et finalement à Kiryat Yearim, où elle va rester un certain moment. Et ensuite, on va présenter Samuel, toujours sans Saül, qui, là, est présenté, en fait, comme si c'était le dernier des juges, hein, qui, en fait, va prendre les armes, va combattre les Philistins, et, en fait, on va dire, bah, tout se passe bien, et tout d'un coup, on arrive à cette première partie où on a une réflexion que nous allons étudier la semaine prochaine sur l'origine et la nécessité de la royauté. Parce que ça va commencer avec 1 Samuel 8, où c'est le peuple qui va demander à Samuel « Donne-nous un roi ». Alors on se demande pourquoi. Samuel fait très bien le travail, il a vaincu les Philistins, il juge le peuple, donc tout va bien. Pourquoi le peuple veut un roi ? Et l'argument du peuple, c'est nous voulons être comme les autres nations. Nous voulons faire comme les autres. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Moi, je veux faire comme mon copain, ma copine. Voilà. Mais est-ce que c'est toujours une bonne idée ? Pas forcément. Donc là, Samuel n'est pas très content, mais il avait dit, mais donne-leur raison, puis tu verras bien ce qui se passe. Et puis ensuite, on a au milieu trois récits sur Saül, hein, qui, en effet, trois fois devient roi. Pourquoi on raconte que trois fois il devient roi ? Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de traditions qui expliquent comment Saül devient roi. Et donc au milieu, c'est des traditions plutôt positives, puisqu'il est consacré par Samuel, il devient roi parce qu'il remporte la victoire sur les Ammonites, et à la fin, et ça revient, c'est une sorte d'encadrement, ça revient sur 1 Samuel 8. En 1 Samuel 12, on va dire en effet que Samuel va rappeler le désir du peuple de se faire gouverner par un roi, disant que c'est une très mauvaise idée. Et donc, avec l'idée, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, en fait, ça introduit déjà à l'histoire compliquée de la royauté. Et ensuite, on va raconter les débuts de la royauté de Saül. Et tout de suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, son rejet par Yahvé. Hein ? Donc d'abord, ça se passe bien, il remporte les victoires, surtout son fils, Jonathan, remporte les victoires contre les Philistins. Mais il y a les trois fautes dont je vous ai déjà parlé, que je ne vais pas maintenant détailler, qui expliquent pourquoi il est rejeté. Donc c'est presque une figure tragique quand même. À peine il est élu, il est rejeté. Donc on peut aussi se dire, mais pourquoi Yahvé il change d'avis aussi rapidement, ou Samuel, donc, qui est en fait le porte-parole de Yahvé. Et ça fait en effet arriver David à la cour de Saül. Et ça, c'est la deuxième partie. Donc David et Saül vont se trouver en compétition. Pourquoi David arrive à la cour, de Saül ? Il y a deux raisons différentes. Première, c'est que Saül est déprimé. Les psychologues ont essayé de comprendre sa dépression. Donc, dans la Bible, on dit qu'il y a un mauvais esprit de Yahvé qui tombait sur lui. Donc, apparemment, ça ne va pas. Et puis, le petit David, il sait bien jouer l'harpe et ça calme Saül. Donc, du coup, on le fait venir pour ça. Et dans une autre tradition, en fait, on le fait venir parce que personne sait combattre le géant philistin de nom de Goliath. Donc là aussi, il y a deux traditions différentes. Une fois qu'il est à la cour de Saül, il va se lier d'amitié avec le dauphin, Jonathan, qui va prendre en fait parti pour David. D'ailleurs, la relation entre David et Jonathan, on va y revenir, elle est aussi un peu érotique comme ça. Et ensuite, il va aussi épouser la fille de David, Michal. Ensuite, le conflit va s'aggraver. David se trouve en fuite devant Saül. Il va faire des tours dans le désert très compliqués. Donc, je ne vous détaille pas maintenant, le temps avance. Donc, il va se réfugier chez des prêtres que Saül fait tuer. Il échappe plusieurs fois à Saül, et deux fois il épargne Saül alors qu'il aura pu le tuer. Donc là, ça devient une manière aussi pour montrer en fait, le comportement de David qui sont son faute. Et au milieu de cela, on va raconter la mort de Samuel et la rencontre avec Abigaïl qui en fait va reconnaître la royauté de David et qui va l'épouser. David a un certain nombre de femmes. Ce n'est pas toujours facile à les compter parce qu'il y a plusieurs traditions sur ce sujet aussi. Et ensuite, là, ce que je vous ai déjà dit à la fin, David devient vassal des Philistins. Saül ne sait plus quoi faire. Ça, c'est un texte aussi très intéressant que nous allons travailler. Il va aller, souvent dans les Bibles, on parle de la sorcière de Endor. C'est quelqu'un qui sait faire parler les morts. Donc, du coup, cette dame va, d'une certaine manière, faire remonter Samuel du royaume des morts, et Samuel va lui parler, mais pas dans le sens que Saül aura souhaité. Donc, on va lui dire, oui, mais c'est fichu pour toi, de toute façon. Ça prépare, en effet, la fin de l'histoire de Saül, puisque Saül et son fils Jonathan vont tomber dans une bataille contre les Philistins. Et ensuite, David va prendre son ascension, va devenir roi d'abord à Hébron, dans le sud, ensuite à Jérusalem. Jérusalem va devenir en fait la ville personnelle de David. Et une fois installé à Jérusalem, David va faire venir l'arche. L'arche qui, en fait, se promène encore ailleurs et qui va revenir sur... Non, pas revenir, elle va revenir pour la première fois à Jérusalem. Et la conclusion, en fait, qui aurait été magnifique, c'est que le prophète Nathan lui promet une dynastie éternelle. Et on a une conclusion de l'histoire, en énumérant toutes les victoires militaires. Donc, Yahvé donna la victoire de David à David partout où il allait. Donc on aurait pu se dire, c'est une magnifique conclusion. Mais apparaît une deuxième partie où David est beaucoup moins, exemplaire qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on appelle l'histoire de la succession de David. Hein. L'histoire de la succession de David, parce que ça va commencer de manière assez forte avec cet adultère dont je vous ai déjà parlé. Le grand roi David commet l'adultère, fait tuer en fait son rival, hein, parce que d'abord David, il est malin, il a couché avec Bathsheba, et il dit à son mari, « Mais va coucher avec ta femme. » Et le mari dit « Non, non, parce qu'on est en guerre, il ne faut pas que je me disperse trop, là, je ne fais pas, non, non, je fais comme mes collègues. » Et donc, du coup, David est embêté, donc il va l'envoyer à la mort. Hein, il va l'envoyer à la mort. Et donc, ça déplaît évidemment à Yahvé, qui, comme je vous ai dit, fait mourir son premier fils, et le deuxième fils qui va naître, c'est Salomon. Ensuite, il y a des révoltes des propres fils de David, notamment d'Absalom, qui normalement aura pu devenir roi, mais qui va être tué. Et une deuxième révolte d'un dénommé Sheva, qui va également être tué. Et à la fin, donc, du livre de Samuel, on a une sorte d'annexe avec des histoires qu'on va regarder une autre fois. Donc je passe là-dessus pour très brièvement vous présenter l'histoire de Salomon. Salomon arrive au pouvoir aussi dans des circonstances qui sont compliquées. Donc il y a des intrigues à la cour, donc il y a un autre dénommé Adonias qui est plus âgé que Salomon, qui devait devenir roi, hein, et qui en fait est en effet sa compagne de se faire élire roi est contrecarrée par Bathsheba qui s'allie avec le prophète Nathan. Et puis David est totalement dépassé par les événements. On dit qu'il est très vieux. On met une jeune fille dans son lit pour le chauffer un peu, mais tout ça, ça ne le réveille plus. Et donc il laisse faire. Et donc finalement, Bathsheba arrive à faire monter son fils Salomon sur le trône. Et une fois sur le trône, Salomon est quand même un peu sévère parce qu'il va tuer la plupart de ses ennemis ou va les exiler. Et ensuite, on a le règne de Salomon qui, d'abord de manière positive, il y a la sagesse du roi, vous connaissez toute l'histoire du jugement de Salomon. Au centre, il y a la construction du temple et l'introduction de l'arche. Et ensuite, il y a une deuxième partie de son règne qui est moins positive. On insiste certes encore sur la prospérité du règne de Salomon, sur la reine de Saba, mais aussi sur des raisons de sa chute. Il oblige le peuple de faire des corvées pour lui. Et selon les auteurs dont je vais vous parler la semaine prochaine, il a des trop nombreuses femmes qui en fait l'amènent à vénérer des dieux des autres peuples, ce qui déplaît évidemment aux dieux d'Israël. Donc l'histoire de Salomon, c'est un peu en deux parties. D'abord, il y a un cadre où Salomon se débarrasse de ses ennemis, et puis en roi 11 où en effet des ennemis se lèvent contre lui. Et donc deux visions, une positive qui insiste sur la sagesse et l'organisation du royaume, et une deuxième sur la reine de Saba, et au milieu, vous avez la construction et l'inauguration du temple. Voilà, c'est des histoires assez diversifiées qui n'ont certainement pas été écrites d'un seul trait, avec des visions sur les trois rois qui sont parfois positifs, parfois négatifs, qui critiquent et qui parfois en fait légitimes. Donc on a plein de ces choses. Mais tout ça, on verra la semaine prochaine. Donc on va s'arrêter. Donc je vous dis qu'on va faire une petite pause d'un quart d'heure. Et pour celles et ceux qui peuvent rester, nous aurons donc un séminaire sur le pharaon. C'est-à-dire, en fait, quand on veut parler des rois dans le Proche-Orient ancien, on ne peut pas ne pas parler du pharaon. Donc nous aurons en fait un séminaire d'ici 15 minutes. Et pour ceux et celles qui doivent partir, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.